Bonjour à tous. Donc en fait, on va parler de la Bible en français, la Bible française, pardon, l'histoire de la Bible française, juste pour rendre hommage en fait l'auteur dont je me suis fortement inspiré. Les livres se trouvent d'ailleurs, il y a deux livres dans la bibliothèque. Donc l'auteur, c'est un homme qui s'appelle Daniel Lorch, qui a vécu de 1855 à 1916. Donc le livre d'ailleurs vous le trouvez sur Amazon, neuf. Hein. Il est vendu encore neuf aujourd'hui. Donc voilà ce que dit la présentation. Il a été pasteur à Beauvoisin. Ça doit être dans le sud, ça. Puis à l'église évangélique libre de Nîmes. Donc c'est un homme qui a vécu de 1855 à 1916. Et donc il a surtout été, surtout en tant qu'agent de la société britannique, biblique britannique et étrangère, que son nom reste dans la mémoire protestante. Et son livre Histoire de la Bible en France est en effet devenu un classique par la richesse documentaire qu'il a su réunir. Trop souvent, le public évangélique français suppose que l'influence de la Bible ne s'est manifestée dans notre pays qu'avec la Réforme. L'ouvrage donc de Daniel Lorch détruit ce préjugé en montrant que la connaissance de l'Ancien et du Nouveau Testament a fortement rythmé la culture du Moyen-Âge et laissé sa trace dans la langue populaire. Donc je me suis, je dirais, à 90% inspiré de cet ouvrage, et puis j'ai aussi fait des recherches un peu sur Internet, mais c'est surtout donc... Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai en fait cette étude-là, je l'ai faite en Angleterre, en anglais, dans un petit groupe de frères, et en fait qui est lié à ce qui s'appelle là-bas la société biblique trinitarienne, donc une société de biblique hein, qui publie des bibles, donc qui est très très conservatrice, et donc il m'avait demandé de faire une étude sur la Bible en français. Donc je l'ai d'abord fait en anglais, puis ensuite je l'ai traduit en français. Voilà. Donc commençons donc notre étude. Donc bien qu'il fallût donc attendre la réforme au VIe siècle pour qu'il y ait une traduction complète et exacte de la Bible en français, cependant la France disposait de traductions en langue populaire bien avant la réforme et y montrait un grand intérêt. Le roi donc Charlemagne vers 800, je ne sais pas si les enfants apprennent encore le roi Charlemagne, mais qui était un grand roi donc France et qui couvrait la France et l'Allemagne. Donc le roi Charlemagne vers 800 fit réviser le texte, donc ce qu'on appelle la Vulgate. La Vulgate, c'était la traduction de la Bible en latin. Donc il fit réviser ce texte par un théologien de la cathédrale de York en Angleterre qui s'appelait Alcuin. Et la noblesse française montrait un grand intérêt pour la Bible et écrivait à cet homme Alcuin avec des questions d'interprétation. La chanson de Roland, je ne sais pas aussi si vous avez étudié ça à l'école, la chanson de Roland, moi je l'ai étudiée, donc c'était un poème épique du XIe siècle, donc un peu plus tard que Charlemagne, mais qui raconte une histoire qui se passait au temps de Charlemagne. Et donc c'est l'œuvre de littérature française la plus ancienne connue. Il raconte donc l'histoire des batailles de Charlemagne contre les Sarrasins, qui étaient les Arabes, l'islam qui envahissait l'Espagne et même qui est monté jusqu'à Poitiers en France. Et donc ce texte est plein d'allusions à la Bible. Et alors que le héros, Roland, est en train de mourir, dans le texte, en fait, il crie au Seigneur et il dit ceci: « Ô notre vrai Père qui ne ment jamais, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts et qui a protégé Daniel des lions, sauve mon âme à cause des péchés que j'ai commis dans ma vie. » Et dans le même poème, donc l'empereur Charlemagne prie également et il dit ceci: « Ô vrai Père, sois mon bouclier aujourd'hui. Tu as sauvé Jonas de la baleine. Tu as épargné Ninive. Tu as délivré Daniel d'un horrible tourment quand il fut jeté au lion. Tu as préservé les trois jeunes hommes dans la fournaise. Maintenant, puisse ton amour veiller sur moi aujourd'hui. » Donc on voit combien ils avaient déjà une connaissance de la Bible. Au XIIe siècle, il y a une vague de traduction de certains livres de la Bible en langue vulgaire, c'est-à-dire donc la langue des gens. Ce qu'on appelle la langue vulgaire, c'est par opposition au latin, donc en langue vulgaire. Donc les psaumes furent traduits en français, alors en français normand, hein, parce que c'était des dialectes, par les moines donc, de Canterbury en Angleterre, puisqu'en fait l'Angleterre était envahie par les Français à cette époque. Le Cantique des Cantiques, Apocalypse, le livre de Samuel et des Rois, le livre des Juges, Maccabée, donc qui est un livre apocryphe, la Genèse. Tout ça a été traduit donc en langue, en fait, en dialectes locaux, puisqu'il n'y avait pas encore de langue française unifiée. Et ce phénomène s'est continué et s'est intensifié dans les siècles suivants. Et donc il y a eu deux sortes de traductions. Il y a eu des traductions hérétiques, dites hérétiques, et des traductions faites par l'Église catholique. Donc les traductions hérétiques, elles sont produites par deux groupes qui étaient considérés comme hérétiques par l'Église catholique et qu'on appelait donc les Vaudois et les Albigeois. Donc on va regarder un petit peu plus en détail dans notre étude qui étaient ces gens. Donc tout d'abord les albigeois. Donc les albigeois, ils sont aussi appelés cathares, du grec kataroi, qui veut dire ceux qui sont purs. Et donc le nom albigeois, il vient de la ville tout simplement d'Albi, qui se trouve donc là-bas dans le sud-ouest, pas très loin de Toulouse. Donc les albigeois, ils étaient répandus dans le sud-ouest de la France, entre le sud du Massif central et les Pyrénées, donc toute cette région-là. Et alors que les Vaudois étaient dispersés, donc on verra après qui sont les Vaudois, mais eux, ils étaient dispersés dans beaucoup de régions de la France et de l'Europe, les Albigeois, eux, ils étaient concentrés donc dans cette région. La croyance cathare dominait toute cette région du sud-ouest de la France, avec des convertis dans toutes les couches de la société, particulièrement la noblesse. Et en fait, quand vous allez dans ce coin-là aujourd'hui encore, vous pouvez visiter ce qu'on appelle les forteresses cathares, donc qui sont des choses qui restent de cette époque. Donc c'était vraiment... C'est une région... très, très prise par cette croyance. Et à tel point que les papes appelèrent une croisade contre les albigeois. Et il s'en suivit une véritable guerre, en fait, avec des batailles rangées, avec des armées des deux côtés. Donc ça se passait entre 1209 et 1244. Et on estime qu'entre 200 000 et 1 million de cathares trouvèrent la mort dans cette guerre. Il est difficile de juger l'exactitude des chiffres, mais il donne une idée de l'ampleur du conflit. À partir donc de 1244, le catharisme fut pratiqué de façon secrète par ses adhérents, on estime qu'en 1350, le catharisme avait entièrement disparu. Alors, pour ce qu'on peut en connaître du catharisme, et je dis cela parce que il est difficile de savoir avec certitude ce que ces gens croyaient, car l'essentiel des documents originaux cathares ont été détruits. Donc, pour ce qu'on peut en connaître, le catharisme était une hérésie dualiste, similaire à l'hérésie gnostique des premiers temps du christianisme, avec la croyance d'un côté en Dieu, et de l'autre côté, ce qu'on appelait donc Dieu qui était une force du bien, et de l'autre côté, ce qu'on appelait le démiurge qui était une force du mal. Les cathares étaient opposés au matériel, à tout ce qui était matériel. Ils voyaient Dieu comme étant entièrement désincarné. Ils considéraient la matière comme mauvaise, et ils ne croyaient pas à l'incarnation de Christ. Ils s'efforçaient de vivre une vie d'ascétisme. Donc si tout ceci est vrai, le catharisme était une dangereuse hérésie, à l'évidence. Ceci étant dit, il lisait la Bible et il semble qu'à cette époque, de nombreuses traductions de la Bible avaient été faites et étaient disponibles dans toute la région. Et il existe des témoignages selon lesquels, vers 1300, il était facile de trouver dans cette région une Bible ou des parties de la Bible en langue vulgaire. En 1229, donc en plein milieu de cette guerre, et à Toulouse, donc dans cette région, il y a eu un concile de l'Église catholique qui s'est réuni en réaction au mouvement cathare, et qui a promulgué ceci. « Nous interdisons aux laïcs de posséder des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, à moins qu'on ne désire, par dévotion, posséder un psautier, donc le livre des psaumes, ou un bréviaire, ou les heures de la Bienheureuse Vierge Marie, mais il leur est strictement interdit de posséder en langue vulgaire même les livres qui viennent d'être cités. » Donc on avait donc une interdiction de posséder la Bible en langue vulgaire par l'Église catholique. On parlera plus tard, plus en détail, des Vaudois, parce qu'ils sont devenus intimement liés à l'histoire de la Bible protestante et du mouvement protestant. À ce stade, on veut simplement dire que les traductions de la Bible faites par les Vaudois se répandirent. Or, donc, les Vaudois avaient l'origine à Lyon. Elles se répandirent hors de Lyon, où le mouvement vaudois fut fondé. Et par exemple, vous pouvez les trouver dans l'Est, à Metz, en Lorraine, traduites en dialecte local. Les traductions locales furent répandues par les colporteurs vaudois, donc les gens marchands itinérants. Il y a un beau poème là-dessus, d'ailleurs, sur les colporteurs vaudois. Et ils transportaient donc des Bibles en secret sous les tissus et les ustensiles qu'ils emmenaient dans leur bagage, et qu'ils vendaient de ville en ville. Et donc, il y a une lettre du pape Innocent III, datée de 1199, qui déplore qu'on lui a rapporté que, dans le diocèse de Metz, une multitude de laïcs, hommes et femmes, emportés par un désir immodéré de connaître les Écritures, ont fait traduire en français les Évangiles, les Épîtres de Paul, les Psaumes, le Livre de Job et plusieurs autres livres de la Bible, dans le but coupable et insensé de se réunir hommes et femmes dans des assemblées secrètes où ils ne craignent pas de se prêcher les uns aux autres. Donc le style est quand même pas mal. Donc en fait, le pape, c'est une preuve indirecte que la Bible était très répandue, puisque juste c'était remonté aux oreilles du pape, et il s'inquiétait de ce phénomène. Donc là, on a parlé donc des traductions qui étaient dites entre guillemets hérétiques, mais il y a eu beaucoup de traductions catholiques bien avant, donc de traductions de l'Église catholique bien avant la Réforme. Donc c'est des traductions qui étaient faites sous le couvert de l'Église catholique. Et apparemment, Rome n'était pas tant opposée aux traductions de la Bible en langue vulgaire qu'aux traductions faites en dehors de son contrôle, comme celles des Albigeois ou des Cathares. Des Albigeois, des Cathares ou des Vaudois. Donc il y a eu plusieurs traductions célèbres de la Bible en français au Moyen-Âge. Les deux principales furent la Bible de l'Université de Paris, qui fut aussi appelée la Bible du XIIIe siècle, qui fut faite entre 1226 et 1250 pendant le règne du roi Saint-Louis. Cette Bible rencontra un succès considérable auprès de la noblesse française. En 1289 fut publiée une nouvelle traduction de la Bible par un homme appelé Guillard de Moulins. C'était une Bible, on appelait ça une Bible historiale. Donc en fait, c'était des Bibles qui contenaient le texte complet de la Bible, mais en plus de, donc traduit de la Vulgate, c'est-à-dire la traduction latine de la Bible, et en plus de ça, étaient ajoutés des commentaires des pères de l'Église, des histoires tirées, et aussi, il y avait des histoires qui étaient tirées d'un autre ouvrage qui s'appelait l'histoire scolastique, qui avait été écrit par un homme qui s'appelait Comestor en 1180. Et donc le livre de Comestor, c'était une histoire sainte, avec toutes les parties narratives de la Bible, plus de nombreux commentaires et digressions. Donc en fait, on avait un peu un mélange du texte de la Bible, traduit donc de la Vulgate, et puis d'autres choses, des commentaires, des plus ou moins valables en fait, hein, commentaires des pères de l'Église, mais aussi des histoires ajoutées. Donc c'était peut-être un peu, tout ça peut-être un peu confus. Mais enfin, ils avaient quand même vraiment la Bible dans leur langue, avec toutes les erreurs de traduction, mais il y avait vraiment quand même quelque chose qui était là. Plusieurs versions de la Bible furent publiées dans les siècles suivants. En 1377, le roi Charles V, dit le Sage, commanda la Bible dite de Raoul de Presles. Et Charles V était donc un je crois que Raoul de Presles, ça devait être son confesseur, je crois. Charles V était un homme pieux. Il lisait la Bible en entier chaque année et il la lisait chaque matin sur ses genoux. Donc c'était même quelque chose, hein. C'était un homme qui lisait la Bible. Alors on avance un peu dans le temps. En 1476, un laïc, imprimeur de son métier, appelé Barthélemy Buyer, fit imprimer le Nouveau Testament en français à Lyon avec l'aide de deux religieux augustiniens. En 1496, le roi Charles VIII, donc c'est le roi lui-même, fit imprimer la Bible en français sous la supervision de Jean de Reuilly, donc c'est lui qui était le confesseur du roi. Donc il a fait imprimer la Bible en français sous la supervision de Jean de Reuilly, et il y a eu plus de 10 éditions de cette Bible jusqu'en 1545. C'était aussi une Bible historiale, donc avec le texte de la Bible, plus des commentaires, des choses rajoutées. Hein, donc en fait, cette Bible, elle était basée sur la Vulgate latine, avec de nombreuses et grossières erreurs de traduction. Il faut quand même voir qu'il y avait beaucoup des grossières erreurs de traduction. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a une statue de Moïse par Michel-Ange dans la basilique Saint-Pierre à Rome, et en fait, une énorme statue, et en fait, il a des cornes, Moïse. Parce qu'en fait, dans la traduction, le mot rayon, donc les rayons de lumière, avait été traduit, probablement ça devait se traduire aussi par corne, et donc d'où le fait que Moïse avait été représenté avec des cornes. En fait, c'était les rayons de lumière, donc c'était le genre d'erreur qu'il y avait dans ces Bibles. Et puis il y avait des rajouts, donc du livre de Comestor, et les commentaires étaient mélangés avec le texte, donc c'était quand même, tout ça n'était pas très bon. Je cite un extrait donc du livre de Daniel Lorch, sur cette époque, et il dit « Les âmes justes, assoiffées de vérité et de salut, pouvaient certes trouver dans cette traduction le message divin, comme l'abeille suce le nectar de la fleur et laisse de côté le poison. Cependant, une réforme était nécessaire. » Et donc, c'est cette réforme que nous allons maintenant regarder. Donc, il y a deux hommes, en fait, précurseurs de la réforme, qui ont joué un rôle important dans la naissance de la Bible protestante en français. Donc, il s'agit d'un homme qui s'appelait Jacques Lefèvre d'Étaples, un professeur d'université, et de Guillaume Farel, un évangéliste. On a étudié sa vie il y a quelques années dans cette église. Donc Jacques Lefèvre d'Étaples, donc c'était déjà un homme âgé lorsque la réforme débuta en France. Il était né aux environs de 1450 dans la ville d'Étaples, près de Boulogne-sur-Mer. Et on pourrait dire que c'était un équivalent du français du grand humaniste Érasme, avec lequel d'ailleurs il était en relation, et il était du même niveau qu'Érasme, aussi bien en stature qu'en réputation, en tant que théologien et humaniste. Donc en 1509, donc Lefèvre a publié une version latine du livre des psaumes avec 5 traductions en latin différentes, présentées en 5 colonnes. Et la dernière étant une révision par Lefèvre de la Vulgate sur la base du texte hébreu original. Donc en fait, ce n'était pas encore une traduction de la Bible en français, mais en fait, il avait publié une version latine et il avait corrigé le texte latin en se fondant sur le texte hébreu original. En 1512, il publia une traduction en latin des Épîtres de Paul avec un commentaire et il y exprima clairement sa compréhension de la justification par la foi seule. Donc on est en 1512, c'est-à-dire 5 ans avant que Luther publie ses thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Donc la réforme, elle agissait déjà. La réforme agissait déjà. Cet homme a clairement exprimé dans son commentaire sa compréhension de la justification par la foi seule. Son commentaire fut condamné par l'église de Rome. En 1523, donc toujours Lefèvre publia une traduction en français du Nouveau Testament à partir de la Vulgate, mais il introduisit dans le texte 50 modifications basées sur le texte grec et résuma ces modifications en annexe. En 1528, il publia une traduction complète de l'Ancien Testament et en 1530, une Bible complète. Elle fut imprimée en Belgique, à Anvers, car depuis 1525, aucun imprimeur en France n'osait imprimer une Bible en français par peur des persécutions. Il y eut plusieurs éditions de cette Bible, 1528, 1530, 1534, chacune prenant de plus en plus d'indépendance par rapport au texte latin. Bien que cette édition fût approuvée par les théologiens de l'université de Louvain en Belgique, donc qui étaient des catholiques, 16 ans plus tard, elle fut interdite par l'Église catholique au Concile de Trente. Et bien que la Bible de Lefèvre fût basée sur le texte de la Vulgate, elle constituait une énorme amélioration par rapport à la Bible historiale. Et enfin, la parole de Dieu dans sa pureté commençait à devenir accessible au peuple de France. Et c'est intéressant de voir, vous voyez, Paris était très, très opposé au protestantisme. Très, très. Surtout l'Université de Paris et le Parlement de Paris. Et apparemment, il y avait d'autres endroits où c'était plus, par exemple en Belgique, c'était peut-être plus, à ce moment-là en tout cas, c'est encore très tôt dans la réforme, c'était peut-être plus facile. Donc voici un extrait de la préface de Lefèvre au Nouveau Testament. Et donc en fait, on voit dans cet extrait comment il explique l'importance de traduire la Bible de façon exacte et de ne pas enjoliver, ajouter ou retirer des choses, comme c'était apparemment la pratique à cette époque. Et il dit ceci. « À ceux qui disent qu'il est meilleur de lire les évangiles avec des ajouts, des omissions et des commentaires afin de les rendre plus élégants, nous répondons que nous n'avons utilisé aucune paraphrase de peur de transmettre un autre sens que celui suggéré par le Saint-Esprit aux évangélistes. En effet, il est périlleux d'user de paraphrases en traduisant la parole de Dieu. Et qu'il soit bien clair que ce que beaucoup considèrent comme de l'élégance sur le plan humain est de l'inélégance et de la dissimulation aux yeux de Dieu. » Je ne rentrerai pas dans les débats sur les traductions de la Bible. Moi, je n'en suis pas un spécialiste, mais je sais qu'il y a différents types de traductions. Il y en a qui collent au texte, il y en a qui s'en éloignent. Bon, je pense que lui, je pense qu'il parlait probablement de choses encore plus farfelues, probablement. Mais je trouve que le texte est intéressant dans cet esprit de rester collé au texte original pour vraiment traduire la pensée du Saint-Esprit. Et donc, Lefèvre, il était aussi professeur à l'Université de Paris. Et il avait parmi ses étudiants un jeune homme plein de fougue appelé Guillaume Farel. Donc Guillaume Farel, il était né donc en 1489 à Gap, dans les Hautes-Alpes. Donc Gap, c'est très au sud de la France, hein, c'est donc au sud-est, très proche des montagnes, dans la région des Hautes-Alpes, et c'est à une heure de voiture de Marseille. Donc sa famille, elle était de la petite noblesse locale, et en 1509, il fut envoyé à Paris pour étudier à la Sorbonne. Il étudia le latin, le grec et l'hébreu. Comme Lefèvre, Farel était un catholique pieux, très concerné par sa vie spirituelle. Farel commença à lire le Nouveau Testament en latin et en grec, et il fut aussi exposé aux idées de la Réforme à Paris, et il fut guidé par Lefèvre à croire en la justification seule. Lefèvre était ami avec un homme qui s'appelait Guillaume Brissonnet, donc c'était un religieux, un prêtre catholique de haut rang, et Brissonnet avait été ambassadeur du roi de France auprès du Saint-Siège, donc à Rome. En 1517, il fut nommé évêque du diocèse de Meaux, donc Meaux, c'est pas très loin de chez nous, et il prit sa mission à cœur, et il était consterné par l'état de négligence de son diocèse avec des prêtres absents de leur paroisse, et les seuls prédicateurs étaient des moines cordeliers qui prêchaient pour de l'argent. Donc en fait, c'était probablement pour ce qu'on appelait les indulgences. Il chassa beaucoup de ses prêtres et en nomma de nouveaux. En 1519, il commença à réunir un petit groupe d'hommes qui pensaient comme lui, et ils constituèrent ce qu'on appela le Cénacle de Meaux. Lefèvre et Farel faisaient partie de ce groupe. Au début, ils prêchèrent en privé, puis en public dans les églises du diocèse. Cette prédication évangélique fut très bien reçue par la population. Lefèvre et Brissonnet firent imprimer les quatre évangiles à Meaux. Donc on a vu qu'en 1523, il avait fait, en fait, Farel avait fait une, Lefèvre avait fait une traduction du Nouveau Testament. Donc il fit imprimer les quatre évangiles à Meaux et les distribuait gratuitement aux pauvres. Il en résulta un changement profond des mœurs, les gens abandonnant l'ivrognerie, les blasphèmes, les querelles, pour mener une vie calme et ordonnée. Le mouvement se répandit autour de Meaux et devint célèbre dans toute la France, tant et si bien que pendant la première partie du XVIe siècle, les premiers protestants étaient appelés des hérétiques de Meaux. Privés de leurs revenus, les moines cordeliers se plaignirent à l'Université de Paris, donc à la Sorbonne. La Sorbonne était très opposée à la Réforme, comme je vous le disais, et aux idées de Martin Luther. Et donc Brissonnet fut convoqué par le Parlement de Paris et céda sous la pression. Il revint dans son diocèse et cessa ses tentatives de réforme. Les nouveaux convertis de Meaux furent persécutés. En 1523, l'un d'entre eux, dénommé Jean Leclerc, fut fouetté pendant 3 jours et eut son front marqué d'un fer rouge. Il mourut en martyr 1 an plus tard à Metz. Parce qu'en fait, Metz semblait être vraiment un haut lieu du protestantisme. Un autre homme, Jacques Pavane, un disciple de Lefèvre, fut brûlé en 1524. Plusieurs autres furent brûlés à Paris ou à Meaux. La persécution ne se limitait pas à Meaux, mais elle s'étendit au reste du pays avec le développement de la Réforme. Le cénacle de Meaux fut dissous. Il dura de 1519 à 1525. Lefèvre s'enfuit à Strasbourg et Farel retourna à Gap. Donc le but de mon message, ce n'est pas de raconter l'histoire de la Réforme en France. Mais à titre de contexte, on peut en dire quelques mots. Malgré d'intenses persécutions de la part des catholiques et des rois, la Réforme s'étendit à toute la France, tant et si bien que vers 1560, on estime que près d'un quart de la population française était protestante. Et c'était surtout dans les classes éduquées, dans la noblesse. En fait, comme toute une partie de la noblesse est devenue protestante et l'autre partie était catholique, ça a donné lieu, donc noblesse militaire, ça a donné lieu en fait à des guerres de religion. Et de 1562 à 1598, la France fut en proie à des guerres de religion entre catholiques et protestants. C'est une période de l'histoire que moi-même, quand j'étais enfant à l'école, on n'enseignait pas beaucoup. C'était terrible. On estime qu'il y a eu 3 millions de morts à cause des guerres de religion. Peut-être pas tous sur le champ de bataille. Ça a duré 40 ans, il y a dû y avoir des famines, des choses comme ça. Mais c'était une période absolument épouvantable pour la France. Et donc, les guerres de religion se sont arrêtées lorsque Henri IV, qui est devenu roi de France, qui était protestant de par sa mère, et favorable aux protestants, est devenu roi. Et en 1598, il a publié un édit de tolérance qu'on appelle l'édit de Nantes. Alors, lui-même, Henri IV, il a renié sa foi protestante puisqu'il est devenu catholique. Il a une formule célèbre où il a dit qu'il ne pourrait pas prendre la ville de Paris, parce que c'était la guerre, qu'il ne pourrait pas prendre Paris s'il n'acceptait pas d'aller à la messe. Et donc, il a dit « Paris vaut bien une messe ». Donc, il sait. Mais enfin, il s'est donc converti au catholicisme, mais il est resté très favorable aux protestants. Et donc, il a fait l'édit de Nantes, qui donnait un certain degré de liberté, même un degré de liberté certain, de culte, en fait, aux protestants en France. Malheureusement, ses successeurs Louis XIII et surtout Louis XIV n'eurent de cesse de réduire progressivement ses libertés, et l'édit de Nantes fut révoqué en 1685, interdisant la pratique de la religion protestante dans notre pays. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur ce survol extrêmement rapide de l'histoire de la Réforme en France au XVIe siècle. Mais rappelons-nous quand même que jusqu'à un quart de la population était réformée, ce qui est quand même remarquable. Donc dans la ville de Genève, il y a un mur qui est appelé le mur des réformateurs. Et ce mur, c'est une portion du mur de la vieille ville, et il se trouve en fait sur le campus de l'Université de Genève, qui fut fondé par Jean Calvin, donc le grand réformateur venu de France, donc à cette époque. Adossé à ce mur, il y a quatre grandes statues hautes de 5 mètres, et elles représentent quatre hommes qui eurent une influence considérable sur la réforme donc dans ce pays, dans la Suisse, et dont les vies furent étroitement liées à Genève. Donc ces hommes sont Jean Calvin, Théodore de Bèze, qui était son bras droit et son successeur, John Knox, qui a apporté vraiment la réforme en Écosse, et l'Écosse est devenue à l'époque un pays extrêmement protestant. Et John Knox avait passé 3 ans à Genève et il fut très influencé par Calvin. Le quatrième, c'est Guillaume Farel, dont nous avons déjà parlé dans le Cénacle de Meaux. Et comme nous le verrons, Farel fut impliqué dans le développement de la Bible en français, c'est pourquoi nous en parlons ici. Donc j'aimerais tout d'abord dire quelques mots sur son ministère. Donc on a étudié, certains d'entre vous ont lu le livre il y a quelques années, là, sur la biographie de Farel. Donc ça vous rappellera des choses. Farel, c'était un homme qui était plein de fougue. Il avait un physique robuste et plein d'énergie. C'était un grand homme, costaud, élevé dans la montagne, et sans doute capable de faire des grandes marches, etc. Alors que Calvin, lui, c'était un homme d'une constitution frêle, qui préférait l'étude et la prédication et écrire des livres. Farel, lui, préférait... C'était un missionnaire très audacieux et brûlant pour Christ. De retour dans sa ville natale de Gap, après le Cénacle de Meaux, il commença à prêcher l'Évangile avec énergie, toujours en butte aux autorités, y risquant la persécution à chaque instant. En 1524, il se rendit à Bâle, dans la ville de Bâle, en Suisse, pour y rencontrer, donc en Suisse allemande, mais à la frontière avec la France, pour y rencontrer le réformateur Ockholmpad. Ensuite, il alla à Montbéliard, qui de nos jours est en France, mais à l'époque, c'était pas la France, donc qui est près de la frontière suisse, et il y prêcha l'Évangile avec succès, malgré une forte opposition de l'Église catholique. Il dut fuir à Strasbourg, toujours en butte aux persécutions, donc pas très loin au nord de Montbéliard, mais il décida de ne pas y rester parce qu'il ne parlait pas l'allemand, et à l'époque, Strasbourg, c'était une ville allemande. Et il se rendit donc dans la partie francophone de la Suisse, où il arriva en 1526. Donc trois langues sont parlées en Suisse, il y a l'allemand, le français et, dans une moindre mesure, l'italien. Le français, il est parlé dans la partie ouest du pays, près de la frontière française, et donc on appelle cette partie la Suisse romande. Et aujourd'hui, la Suisse romande, ça contient environ 2,1 millions d'habitants. Le reste du ministère de Farel fut consacré à prêcher l'Évangile en Suisse romande. Donc alors que l'Évangile avait fait de grands progrès en Suisse allemande, notamment avec un homme comme Zwingli, la partie française, elle était entièrement sous le contrôle de l'Église catholique. Sans rentrer dans le détail du ministère de Farel, on peut dire en résumé qu'en 1536, donc soit exactement 10 ans après son arrivée en Suisse romande, eh bien la plus grande partie de la Suisse romande était devenue protestante. Le canton de Vaud, dont la capitale est Lausanne, le plus grand canton de Suisse, le canton de Genève et le canton de Neuchâtel étaient entièrement gagnés à la réforme. Et encore aujourd'hui, bon... Les réformateurs sont devenus complètement libéraux, mais les cantons en Suisse sont toujours... Les religions sont par canton. Et effectivement, ces régions-là sont toujours des régions protestantes, alors que le canton du Valais et le canton de Fribourg sont des cantons catholiques. Et donc, en fait, ce travail d'évangélisation, c'est vraiment essentiellement l'œuvre de Farel et des hommes qui l'a inspiré par son ministère, notamment un homme qui s'appelait Pierre Viret. J'ai eu la chance, en fait, d'aller visiter l'église où Pierre Viret, en fait, a prêché pour la première fois et où Farel était venu. Donc, d'aller en Suisse, c'était assez touchant. Donc, Farel était un homme plein d'audace et son ministère l'était aussi. Il imitait à beaucoup d'égards l'apôtre Paul. Dans une ville, Farel créait une école et il prêchait l'évangile aux enfants, puis aux parents. Dans une autre ville, il prêchait dans la place du marché. Dans une troisième, il rentrait dans l'église catholique au moment de la messe et il montait en chaire et il se mettait à prêcher. Donc c'était un sacré bonhomme. Il se mettait à prêcher l'évangile, évidemment. Vous pouvez imaginer quelle opposition il rencontra de l'église catholique. Il fut souvent battu, mis en prison, menacé de mort, mais il réchappa toujours et il vécut jusqu'à l'âge de 75 ans, ce qui pour l'époque était franchement bien. Et donc il y a un événement de la vie de Farel qui est directement lié à l'histoire de la Bible en français, et il eut lieu en 1532, et il met en scène en fait les Vaudois, donc ces fameux Vaudois dont nous avons parlé plus haut. Donc avant de décrire cet événement, on va dire quelques mots sur les Vaudois. Donc les Vaudois furent fondés par un homme qui s'appelait, donc le mouvement vaudois fut fondé par un homme qui s'appelait Pierre Valdo, hein, ou Valdès. Bon. Donc c'était un riche marchand de tissus de la ville de Lyon. Et vers l'année 1160, inspiré par plusieurs événements, notamment la mort inattendue d'un ami pendant un dîner, et l'audition d'un sermon sur la vie d'un saint qui s'appelait Saint Alexius, il commença à mener une vie radicale de chrétien, distribuant ses biens aux pauvres, en aumône. Il commença à prêcher et enseignant en public, en se fondant sur ses idées de simplicité et de pauvreté. Entre 1170 et 1180, il fit traduire le Nouveau Testament en langue vulgaire par un religieux de Lyon. Les Vaudois furent excommuniés par une bulle papale en 1184, donc très vite après, et condamnés comme hérétiques en 1215. Au début, le mouvement semble être caractérisé surtout par la prédication, par des laïcs et par la pauvreté. Il ne semble pas que Valdo, qui mourut en 1205, ait eu l'intention de se séparer de l'Église catholique, bien que le mouvement fût condamné comme hérétique. Donc lui, en fait, il n'avait pas développé une théologie qui le faisait se séparer de l'Église catholique, mais il était condamné comme hérétique. La prédication des Vaudois, elle insistait sur la repentance et la conversion. Il y avait un grand besoin de cette prédication en raison du vide laissé par le clergé local. Bien que les Vaudois ne fussent pas encore protestants, ils insistaient sur la foi comme étant la cause des bonnes œuvres. Donc, la foi était à la base des œuvres. Le mouvement se répandit rapidement dans toute l'Europe. À l'Espagne, au nord de la France, on a vu aussi à Metz, aux Flandres, donc dans les Flandres, dans l'Allemagne, l'Italie du Sud et même la Bohême, c'est-à-dire l'actuelle République tchèque. Ils souffrirent une terrible persécution et vers la fin du XVe siècle, ils s'étaient réfugiés dans certaines vallées du sud des Alpes françaises et italiennes qu'on appelle les vallées vaudoises, encore à ce jour les vallées vaudoises du Piémont. Donc ils se situent là, vraiment tout au sud de la France, à peu près au niveau de Gap, mais sur la frontière italienne. Donc, c'est là qu'ils se trouvaient. Donc, les communautés vaudoises qui furent impliquées dans le développement de la Bible en français, donc elles étaient basées, en fait, ce qui est aujourd'hui l'Italie du Nord, tout près de la frontière française, et c'est une région qui, à l'époque, était francophone. C'est intéressant de savoir que cette région, elle était francophone jusqu'à l'époque de Mussolini, en fait. Et puis Mussolini, il a complètement italianisé cette région. Elle était italienne. Elle était française jusqu'en 1713. Ensuite, elle est devenue italienne, il y a eu un traité. Mais les gens continuaient à parler français. Et puis Mussolini l'a italianisée. Alors, j'en parle de façon savante parce que j'y suis allé, en fait. Ma sœur a un petit appartement dans un petit village dans l'autre montagne, juste de l'autre côté de la frontière italienne, à 20 km à vol d'oiseau de là où on le verra. La Bible a été, je dévoile, la Bible a été traduite. Donc c'est une région des plus hautes des Alpes, hein, avec des nombreux sommets au-delà de 3000 mètres. L'actuelle frontière franco-italienne court entre ces sommets, et les Vaudois, ils étaient installés des deux côtés de cette frontière, dans ces vallées encaissées, où ils allaient manifestement chercher une protection, puisqu'elles ne sont pas faciles d'accès. Hein. Donc ils allaient se protéger des persécutions, en fait. Hein. Donc dans le côté français, ce sont les vallées du Queyras, de Valouise et de Fraissinière. Donc c'est au sud de Briançon, dans le coin de Briançon, en allant vers le sud-est. La vallée du Queyras, donc c'est là où j'étais en vacances. Là, c'est une très très grande vallée, magnifique d'ailleurs. Et Valouise et Fraissinière, c'est plutôt du côté du massif des Écrins, donc de l'autre côté de la route qui va de Briançon à Gap, en fait. Donc c'est ça vaut la visite, hein, sur le plan scénique, c'est absolument magnifique. Donc les Vaudois avaient entendu parler de la réforme qui se développait en Europe. Et donc ils envoyèrent d'abord deux de leurs anciens, qu'on appelait des barbes, à Oecolampad, ce fameux Oecolampad à Bâle, qui les exhorta à se séparer de Rome. Apparemment, les opinions divergeaient sur ce point parmi les Vaudois, sur savoir s'il fallait se séparer de Rome. Ils envoyèrent donc deux autres barbes vers Farel, et Farel se réjouit de leur visite et décida de se rendre avec eux dans leur vallée, où les Vaudois avaient convoqué un synode de leur église, dans un lieu appelé Champforan, donc dans la vallée d'Angrogne, dans l'Italie actuelle, et là, je vous disais, c'est à une quinzaine de kilomètres de la frontière française. Le voyage était très dangereux, car il devait traverser les terres du duc de Savoie, qui était un ferme opposant de la réforme et un homme violent, en tout cas avec les protestants. Et d'ailleurs, deux des deux hommes qu'avait rencontrés au Colampad à Bâle, l'un des deux fut arrêté et mis à mort en France. Mais Farel et Saunier donc réussirent leur voyage à Champforant, où ils arrivèrent en septembre 1532. Donc Farel était venu avec un homme donc, qui s'appelait Saunier. Donc ils ont sur leur voyage, ils sont arrivés à Champforant donc en septembre 1532. Le synode réunissait des Vaudois de nombreux endroits, donc non seulement des vallées vaudoises, mais de Bourgogne, de Lorraine, de Calabre, dans le sud de l'Italie et de Bohême. Et un des points de discussion du synode était de savoir s'il fallait se séparer complètement de l'Église catholique, donc de Rome, et de se joindre à la Réforme. Il va sans dire que l'influence de Farel fut décisive, et à partir de ce moment, le mouvement vaudois en France fusionna avec le mouvement réformé. Vous avez peut-être entendu parler du massacre des Vaudois dans le Luberon. Donc il y avait des Vaudois aussi qui s'étaient installés dans le Luberon, donc plus vers Aix-en-Provence, là, un petit peu au nord d'Aix-en-Provence, où il y a eu un massacre qui a été fait à la fin du règne de François Ier, vers 1545, où ils ont massacré 3000 personnes pendant plusieurs semaines. Enfin, c'était épouvantable. Et donc, c'était des Vaudois, mais qui étaient devenus protestants, puisque là, on est après 1532. Pendant ce synode, les barbes donc montrèrent à Farel et à Saunier leurs vieux manuscrits de la Bible, parce qu'ils avaient des vieux manuscrits de la Bible, en langue vulgaire. Farel et Saunier leur firent remarquer que ces traductions étaient en trop petit nombre et qu'une traduction fondée sur les textes originaux était nécessaire. Et les barbes votèrent avec cette motion avec enthousiasme. À la fin donc de 1532, Saunier et un autre homme, donc ce même Saunier qui avait été au synode, Saunier et un autre homme travaillant avec Farel se rendirent au Valais. Leur but était de collecter l'argent des Vaudois pour financer l'impression de la Bible. Et ils collectèrent donc la somme de 500 couronnes, qui était une somme importante. Mais il fallait un traducteur et ils n'en avaient pas encore trouvé un. Mais l'homme qui accompagnait Saunier, donc il s'appelait Pierre Robert Olivetan, et c'était lui qui allait traduire la Bible en français à partir des textes originaux. Alors son vrai nom, c'était probablement Louis Olivier. Mais enfin, dans ce temps-là, ils aimaient bien se donner des surnoms. Donc Louis Olivier, il était cousin de Jean Calvin et il était de 3 ans son aîné. Et donc je crois qu'il était né en 1506. À Noyon. On était pour le mariage de Sébert, oui. À côté en tout cas. Donc on a même dit qu'Olivetan contribua à amener Jean Calvin à la foi en Jésus-Christ. À la foi en Jésus-Christ seul lorsqu'ils étudiaient ensemble à Paris, en l'exhortant à lire les Écritures. Donc Olivetan, c'était un homme qui était très timide et considérait que la prédication de la parole était au-delà de ses capacités. Mais il connaissait très bien l'hébreu et le grec qu'il avait étudié à Paris, puis à Strasbourg, où il était avec le réformateur Martin Bucer en 1528. Farel insista qu'Olivetan entreprit l'œuvre de traduction, mais le timide Farel refusa dans un premier temps. Voici un extrait de la préface de la Bible Olivetan par Jean Calvin à propos du traducteur, donc à propos de son cousin. Il est caractérisé par de nombreuses qualités, mais au-dessus de tout par la modestie. Si c'est bien de la modestie et non pas une timidité excessive, qui l'a presque empêché d'entreprendre cette sainte œuvre. Il ne l'aurait pas fait si Guillaume Farel et Pierre Viret, ces saints hommes de Dieu, ces témoins et défenseurs de l'invincible parole de Dieu, ne l'avaient convaincu par leurs exhortations et leurs chaleureuses supplications et ne l'avaient contraint à leur céder. Donc il a cédé à ses amis et il a commencé la traduction de la Bible à la fin de 1533, et il l'a fini un an plus tard. Et il fit sa traduction dans les belles montagnes là-haut, donc dans les vallées vaudoises du Piémont. Et il est très probable, en fait, qu'il avait déjà fait une traduction de l'Ancien Testament. Quand il vint dans les vallées, il l'avait déjà fait, en fait. Et aussi qu'il utilisa la traduction d'un autre homme, donc aussi de l'Ancien Testament, qui s'appelait Gérard Roussel et qui était un des membres du Cercle de Meaux. Et donc cette année, en fait, qu'il a passée là-bas dans les montagnes, elle fut utilisée pour améliorer son travail sur l'Ancien Testament et à traduire le Nouveau Testament et les livres dits apocryphes. La préface du traducteur, dans la préface d'Olivetan à cette Bible, est très très belle et je vais vous en lire vous en dire quelques mots. En fait, Olivetan, dans cette préface, il dit qu'il ne veut pas dédier ce livre à des hommes puissants, des rois ou des empereurs, comme c'était la coutume en ce temps-là, mais il dédie ce livre, donc la traduction de la Bible, à l'Église qu'il appelle la pauvre petite église. Il la compare à une pauvre femme de chambre, maltraitée par de méchants maîtres. Il lui demande de nettoyer ses vêtements souillés par la saleté des vaines traditions, de laver ses mains salies par un service plein d'iniquité, de nettoyer ses yeux de la superstition et de l'hypocrisie, de se séparer de sa méchante belle-mère, l'Église catholique, qu'elle a appelée mère pendant trop longtemps. Elle doit prendre garde à cette Bible, un joyau précieux que Christ lui offre comme un engagement de mariage. Elle doit dire à ses anciens maîtres qu'elle veut suivre la volonté de Christ, son époux. Donc c'est vraiment très beau. Il y avait aussi une belle préface de Jean Calvin, qui n'avait que 25 ans à l'époque. Dans cette Bible, il n'y avait pas de numérotation de versets, parce que ça n'existait pas encore. Alors en fait, la première division du Nouveau Testament en versets, elle fut faite en 1551 par un homme qui s'appelait Robert Étienne, un Français qui était un imprimeur, et on dit, et c'est probablement vrai, qu'il le fit alors qu'il était à cheval, voyageant de Paris à Lyon. Alors, il y a des gens qui disent que quand parfois les coupures entre les chapitres sont un peu bizarres, c'est qu'il a fait ça à cheval en allant de Paris à Lyon. Mais c'est authentique. Hein. Et Robert Estienne aussi, il y a eu tellement d'hommes à cette époque-là, il faudrait qu'on raconte leur histoire, mais elle a certainement été. Mais cet homme-là, rien que lui, c'était un humaniste au même sens que Lefebvre, c'était un imprimeur. Et en fait, il s'est converti au protestantisme, il a dû fuir la France finalement, et il s'est réfugié à Genève, à la fin de sa vie. Donc l'Ancien Testament d'Olivetan est considéré comme un chef-d'œuvre pour l'époque en comparaison avec ce qui existait. La traduction du Nouveau Testament n'était pas aussi bonne, parce qu'en fait, Olivetan connaissait mieux l'hébreu que le grec. Sa traduction était plus une révision basée sur les textes originaux de la traduction que Lefebvre avait fait à partir de la Vulgate, et aussi de la traduction latine d'Erasme. La Bible Olivetan fut imprimée à Neuchâtel en février 1535 par un imprimeur qui s'appelait Wingle. La Bible Olivetan, elle était loin d'être parfaite, et elle contenait beaucoup d'erreurs, et ceci n'est pas étonnant quand on sait que c'était l'œuvre d'un seul homme, qui, bien que très érudit et fervent, il la traduisit en un an, tout seul, dans ses montagnes, à une époque de grande persécution. Jean Calvin était conscient du besoin de révision, et il écrivit ceci. « Mon désir est que quelqu'un, ayant beaucoup de temps et équipé avec ce qui est nécessaire pour un tel travail, passe une demi-douzaine d'années à la réviser, et ensuite la transmettre à des gens experts et instruits, afin qu'elle fût revue par plusieurs personnes. » Ceci n'arriva pas c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais au fil des années qui ont suivi, la Bible Olivetan a été révisée à de nombreuses reprises et a servi de base à des traductions, à des versions nouvelles encore utilisées à ce jour, comme la Bible Martin et la Bible Osterwald. Alors personnellement, moi, cette année, j'ai fait mes lectures de la Bible dans la Bible Martin, donc j'ai presque terminé. C'est une lecture qui est un peu soutenue, dans un français qui est peut-être un peu difficile pour nous. C'est très proche souvent de la Bible d'Arby. Donc c'est très proche du texte, en fait. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est souvent quand je voyais une différence entre la Bible Martin et la Louis II, j'allais regarder la King James en anglais. Et en fait, ils étaient très proches. Parce qu'en fait, la Bible Olivetan, elle a été révisée très rapidement à Genève, par Calvin lui-même, je crois, elle est devenue la Bible de Genève. Et la Bible de Genève, elle a été traduite en anglais, et elle était la Bible des communautés protestantes anglaises. Et ensuite, la King James est arrivée après, mais les Bibles se copiaient toutes les unes des autres. Donc en fait, tout ça est lié. Et donc, si on regarde la Martin et la King James, elles sont souvent très très proches. La Bible Osterwald, elle est venue à la Bible Martin, c'est 1740, et l'Osterwald aussi. Mais l'Osterwald que vous trouvez en France aujourd'hui, elle a été révisée. Elle est très lisible, la Bible Osterwald. Je l'ai lu aussi en partie. Donc c'est aussi un texte intéressant. Voici ce que dit un théologien français en 1866. Donc c'est un homme qui s'appelait Reuss. Donc il écrit en 1866 et il dit « La Bible Olivetan doit être considérée comme la base de toutes les éditions, révisions et versions qui ont été reçues depuis cette époque par les églises protestantes de langue française. » De cette première édition ou traduction protestante en langue française sont dérivées, après une série de transformations, parfois en profondeur, toutes les autres qui ont existé, même si elles ne gardent pas grand-chose de l'original. Donc il écrit ça en 1866, et la Bible Louis II, donc celle que nous utilisons, et nous utilisons en fait essentiellement la Louis II et ses dérivés, parce que même la seconde 21, l'annexe 79, tout ça c'est des héritiers de la Bible Louis II. En fait, la Louis II a été traduite après ce que disait cet homme-là. Donc, elle n'est pas Donc la première version est apparue à la fin du XIXe siècle, et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle était une descendante directe de la Bible Olivetan. Mais c'est notamment parce qu'elle n'utilise pas les mêmes manuscrits, en fait. Tous les textes de la Bible Olivetan, la Bible Osterwald, la Bible Martin, ils utilisent ce qu'on appelle les textes reçus. Et à partir de la fin du XIXe siècle, ils ont utilisé, surtout pour le Nouveau Testament, d'autres textes, pas très différents des textes reçus, mais enfin avec des petites variantes, d'autres manuscrits. Mais j'ai aucun doute que Louis II connaissait et consultait les versions successives de la Bible Olivetan, c'est évident. On se rend compte d'ailleurs quand on lit le texte. Voilà, donc j'en ai presque terminé, on peut remercier le Seigneur pour ce jeune homme timide, Olivetan, qui, il y a 500 ans, presque, pas année pour année, mais traduisit le premier, la Bible en français à partir des textes originaux, seul dans sa montagne. Il est mort très peu de temps après, en 1538, à Rome, 3 ans après la première édition, âgé de 32 ans. Et il y a eu des rumeurs selon lesquelles il aurait été empoisonné, mais on n'est pas sûr. En tout cas, on veut honorer la mémoire de cet homme qui a rejoint la galerie des héros de la foi, parce qu'on bénéficie de son travail encore, jusqu'à ce jour. Voilà, j'en ai terminé. Et je vous encourage donc à la lecture de ce livre qui est dans la bibliothèque.